Tout d'abord, il y a des simples manifestants qui ont manifesté donc le soir de l'élection présidentielle du 19 décembre pour contester les fraudes électorales. Et ces manifestations, en fait, ont donné lieu à des débordements. Et notamment, une des infractions qui est retenue contre la plupart des manifestants, c'est le fait d'avoir voulu éventuellement fomenter un coup d'État, puisqu'il y aurait eu une tentative d'entrée dans des bâtiments public et notamment dans le siège du gouvernement. Donc il y a des simples manifestants qui pour la plupart ont été condamnés à quelques jours de détention. Et il y a des chefs de file à différents niveaux et parmi un certain nombre d'entre eux, il y a notamment d'anciens candidats officiels à l'élection présidentielle, donc qui avaient pu faire campagne de manière un peu plus libre que précédemment d'ailleurs, et qui se retrouvent aujourd'hui accusés comme principaux organisateurs de troubles à l'ordre public et de tentatives de prise du pouvoir par la force. Et parmi ces anciens candidats à l'élection présidentielle, là, il y a des différences entre ce que j'appelle les opposants de toujours, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais travaillé d'une quelconque manière que ce soit avec Loukachenko, qui est quand même au pouvoir depuis 1994, et il y a ceux qui ont pu exercer des fonctions en tant que haut fonctionnaire. Parmi ces gens-là, il y a notamment Andrei Sannikov, qui a occupé des fonctions importantes au sein du ministère des Affaires étrangères.
À quoi ça sert, du coup, ces procès, ces condamnations? C'est pour dissuader toute opposition? À quoi ça sert?
En fait, ce qui se passe, c'est que le régime politique biélorusse, qui donc s'est fondé avec l'arrivée au pouvoir de Loukachenko en 94 maintenant est traversée en fait par des cycles de libéralisation et de répression. Donc là, la répression de décembre, janvier, qui se poursuit aujourd'hui avec les condamnations, la répression politique en fait intervient après une relative, vraiment très relative, mais une libéralisation par rapport à l'opposition. Alors, le fait que les médias étaient moins harcelés, on va dire ça comme ça, que les candidats à l'élection présidentielle aient pu s'exprimer un peu plus librement qu'auparavant, mais c'est pas pour ça que la télévision d'État s'est libéralisée du jour au lendemain. Ils ont eu un petit peu plus de temps d'audience. Donc ces répressions interviennent après une libéralisation qui visiblement au final a fait très peur au pouvoir politique. Hein. C'est-à-dire que la libéralisation a entraîné en tous les cas une manifestation de grande envergure, peut-être à laquelle le pouvoir n'était pas préparé. Et le pouvoir a sans doute pris peur et a voulu réprimer très fortement pour montrer que s'il y avait une ouverture possible, l'alternance au pouvoir était impossible. Et la répression actuelle est vraiment faite, de mon point de vue, pour entériner tout espoir de l'opposition d'un jour pouvoir justement faire l'alternance avec le président Loukachenko.
Là, quand même, on a l'impression que paradoxalement, en menant ces procès, ça quand même donne une certaine visibilité aux noms, aux anti-Loukachenko. Il y a eu cette bombe sur le palais de justice, il y a eu des fleurs distribuées à un poète libéré à sa sortie de prison. On a l'impression quand même que paradoxalement, il y a une sorte de souffle qui est maintenu là, non?
Il y a toujours des résistants. Je veux dire, si je me rappelle la répression d'envergure de 1996, où il y avait eu plus de 200 manifestants d'arrêtés, un certain nombre d'opposants qui étaient partis en exil, etc., ça n'anéantit jamais totalement l'opposition, à moins que le régime s'engage vers le totalitarisme. Et dans un régime autoritaire, il y a toujours des résistants. Pour moi, l'opposition actuelle, effectivement, elle continue d'exister par des poches de résistance. Il y aura toujours des gens courageux pour continuer de manifester alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être emprisonnés immédiatement. Mais ça va entraîner un essoufflement évident. Et surtout, les leaders vont être emprisonnés. C'est-à-dire, le peu de personnes qui avaient réussi à émerger malgré la répression politique continue, Eh bien, ces leaders aujourd'hui sont muselés. Hein. Ceux qui sont en prison, c'est une évidence, et même ceux qui sont assignés à résidence, etc. Donc, bien évidemment, il y aura toujours une résistance politique au régime. Elle existe dans n'importe quel régime autoritaire, mais elle va se trouver très affaiblie parce que là, les condamnations font que, bien évidemment, un certain nombre de personnes vont réfléchir à deux fois avant d'aller manifester.
En Europe, en Occident, on parle de procès politique. Est-ce qu'on peut parler d'une justice manipulée aux mains de Loukachenko aujourd'hui?
Bah oui, l'Union européenne, dans ses dernières sanctions, souligne le fait qu'il n'y a pas de preuve à la plupart des accusations prononcées contre les personnes incriminées. De toute façon, la justice en Biélorussie n'est pas une justice indépendante. Hein. Tout est politisé, hein, dans le milieu médiatique, dans le milieu judiciaire, même dans le milieu économique. L'économie qui reste dirigée très fortement par l'État, il y a très peu de privatisation, elle est complètement entre les mains du pouvoir actuel, donc même les directeurs d'entreprise n'ont pas les mains libres. Donc il est évident que la décision de réprimer fortement est une décision qui vient du sommet de l'État.
Vous avez parlé des sanctions européennes, donc là il y a 13 magistrats qui voient leur avoir gelé, qui sont privés de visa. On parle en tout de 175 personnes qui sont visées par ces sanctions de l'Union européenne depuis le début de l'année. Clairement, c'est un signe de mécontentement par rapport notamment à ces procès politiques, jugements sans fondement, répression. Est-ce que les sanctions comme ça, c'est la seule arme dont dispose l'Union européenne et est-ce que cette arme est utile?
Ah, ça, c'est très compliqué parce que d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces sanctions sont prises dans un paquet de sanctions, non pas uniquement à destination de la Biélorussie, mais aussi d'un certain nombre de pays du monde arabe. Donc l'Union européenne est dans une réactivation de la politique de sanctions qui avait été oubliée, suspendue vis-à-vis de la Biélorussie pendant cette période d'ouverture que j'évoquais précédemment et qui là est réactivée tout simplement parce que je crois que l'Union européenne ne peut pas se permettre de ne pas soutenir un certain nombre de principes et notamment principe des droits de l'homme. Alors, est-ce que ces sanctions sont utiles? Non. Elles ne sont pas utiles, ce sont plus des sanctions de principe, et l'Union européenne le sait qu'elles ne sont pas utiles, puisque justement, elle avait essayé de trouver un autre moyen, en intégrant la Biélorussie, en essayant d'instaurer un dialogue. Donc l'Union européenne n'adopte pas une politique de sanctions permanente, elle essaye de jouer avec les moyens qu'elle a, et les moyens sont faibles, tout simplement. C'est-à-dire que lorsqu'on a une dictature, que ce soit ailleurs dans le monde et encore aux portes de l'Europe, eh bien, les moyens de faire infléchir un régime sont extrêmement limités. On sait que l'Union européenne avait essayé d'agir à travers la Russie aussi, en essayant de montrer à la Russie qu'elle avait vraiment un partenaire assez désagréable, mais cette stratégie n'a visiblement pas fonctionné non plus. Donc voilà, je crois que l'Union européenne cherche utilise des moyens de pression différents. Ceux-ci ne sont pas forcément toujours utiles.
Moscou a, elle, critiqué ces sanctions. Elle a dit que ça ne servirait en gros à rien et qu'en gros, il fallait relancer justement ce dialogue pour faire sortir Loukachenko de son isolement. Mais est-ce que du côté de Minsk, on a envie, besoin, justement, de s'ouvrir à un dialogue?
Le problème est assez clair, c'est que le président actuel ne veut pas d'une alternance. Une ouverture du régime a prouvé que ça comportait des risques de changement de pouvoir. Donc, quand il y a une ouverture de la part du régime, notamment pour avoir un certain nombre de financements de l'Union européenne, etc., cette ouverture doit être la moins risquée possible pour le régime autoritaire du Bélarus, du point de vue du président lui-même. Donc on est dans un espèce de cercle vicieux où le président souhaiterait, sans doute, il l'a répété à plusieurs reprises, avoir des relations cordiales avec l'Union européenne, mais il doit le faire à moindre coût au niveau de la politique intérieure. Et ça c'est compliqué, puisque plus on libéralise un régime, plus les risques de se voir écarté du pouvoir sont réels. Et Loukachenko est très averti de cela. Et encore une fois, avec ce qui se passe dans le monde arabe, il sera sans doute de moins en moins enclin à libéraliser le régime. Et ce, d'autant plus que c'est un régime autoritaire qui a eu quand même des penchants criminels. On parle aujourd'hui des arrestations, mais il faut savoir qu'il y a des disparitions politiques en Biélorussie. Donc, c'est un régime dont le changement de pouvoir peut être aussi violent. Et ça, le président en est certainement convaincu. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on n'est pas prêt de retrouver une libéralisation du régime politique en Biélorussie aujourd'hui.
Même avec une intervention de la Russie, en sachant qu'un prêt est en train de se préciser, puisque Loukachenko a des problèmes d'argent, et que la Russie serait le premier bailleur de fonds de ce prêt, est-ce que là, il y a un moyen d'action de la part de la Russie ? Est-ce que l'ouverture politique se ferait là par un moyen économique ?
Je ne crois pas. Tout d'abord, la Russie n'est pas un modèle de démocratie, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, les intérêts de l'Union européenne et de la Russie sont totalement différents vis-à-vis de ce pays. C'est-à-dire que la Russie n'a qu'un objectif, c'est de mettre la main sur les entreprises stratégiquement importantes du Bélarus. Pour l'instant et jusqu'à une date assez récente, le régime biélorusse a résisté. Mais on sait que Gazprom a pris des parts de marché dans l'entreprise de transit du gaz, qui est Beltransgaz. 50% des actions sont entre les mains de Gazprom, qu'il a acheté progressivement. Et là, Gazprom est en train de négocier la privatisation complète de cette entreprise de transit du gaz. Donc les Russes sont intéressés à avoir un contrôle économique sur la Biélorussie, comme ils sont intéressés à avoir un contrôle économique sur l'Ukraine et sur d'autres pays de la périphérie. Peu importe le régime politique. Et le régime politique biélorusse est un régime dérangeant du point de vue de l'Union européenne. La Russie a besoin de se justifier dans ses actions de soutien économique à ce régime biélorusse. Mais au niveau international, la Biélorussie n'est pas une entrave trop importante pour la Russie. J'irais même que parfois elle peut servir les intérêts russes sur la scène internationale, notamment dans une volonté de contrepoids à l'hégémonie américaine. Donc ce que cherche la Russie, c'est avant tout à prendre le contrôle économique de la Biélorussie. L'ouverture démocratique peut s'avérer, là aussi, risquée pour la Russie, puisqu'une ouverture démocratique veut dire changement de pouvoir, et changement de pouvoir, ça veut dire l'arrivée au pouvoir de personnes qui pourraient se rapprocher de l'Union européenne et chercher une indépendance économique beaucoup plus forte vis-à-vis de la Russie. La Russie se souvient très bien de l'alternance au pouvoir avec la présidente Yushchenko en Ukraine, et elle ne veut absolument pas risquer ce genre d'opérations en Biélorussie.